5, 4, 3, 2, unité, top.
L'auberge espagnole sur Divergence FM, vie associative, culture, science, environnement, tout y passe et tous y passent.
Un artiste qu'on va dire au sens du terme large.
C'est la grosse nouveauté de l'économie sociale, a du sens.
On est loin de l'abrogation totale des gaz de schiste en France.
Moi, trash, ça va être pégueux, je pense.
L'idée, c'est de sortir de l'ordinateur.
Tout le truc que je kiffe.
Jardin sec, pourquoi le faire? Quels sont les coûts?
On reconnaît la langue du cinquième élément.
Vraiment un mur de guitare, comme un souffle atomique.
Un public habitué.
C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui les entrepreneurs d'identité.
Bah, c'est super, on voit que les motards se mobilisent.
C'est gratuit et on ne vend rien, c'est neutre, donc profitez-en.
L'Auberge espagnole, une émission de la rédaction de Divergence FM, présentée par Gilles Couget.
Tout l'an 2012, ça va se travailler, puis début 2013, on lance ça en France.
L'Auberge espagnole de ce mardi 18 juin est une auberge aux chausse-pieds. On va essayer de faire rentrer tout le monde. Ce sera d'abord Didier Théron, Hélène Catala et Yann Lheureux au micro de Vincent Pourageau pour vous présenter la 4e édition de Mouvement sur la ville. C'est de la danse. Julien Moira du groupe Punk Mello, et oui, ça existe, Angry Sometimes, viendront nous parler d'une scène punk le 21. Aurélien Roux de l'AMMD pour la première création de Think Fish, une comédie musicale pour adultes de Frank Zappa, jamais jouée sur scène. Et puis Patrick Bedos, programmateur cinéma du FIRN, et Hélène Couturier au téléphone. Nous parlerons de l'édition 2013 du Festival international du roman noir. Ça démarre ce lundi 24 juin et c'est Vincent Pourageau qui nous rejoint.
Du 22 juin au 2 juillet, c'est Mouvement sur la ville, c'est la 5e édition. Ce sont 18 compagnies, 23 rendez-vous artistiques, 3 masterclass, un pique-nique et un flash mob et tout ça dans 10 lieux. Et pour nous en parler, nous recevons Hélène Catala, bonjour.
Bonjour.
Yann Lheureux.
Bonjour.
Et dans quelques instants, parce qu'il a un peu de retard, Didier Théron. Alors voilà, ça fait 3 chorégraphes depuis 5 ans qui organisent un mouvement sur la ville. Est-ce qu'on peut rappeler très rapidement pourquoi c'est vous 3 qui organisez Mouvement sur la ville, ce rendez-vous de la danse?
Peut-être parce qu'au départ, nos compagnies ont choisi d'avoir des lieux à Montpellier, des studios. Donc c'est un outil qui permet de montrer de la danse dans des conditions particulières. C'est un peu une façon alternative d'aller vers la danse. Et le fait que nous avions assumé ce choix d'avoir des studios nous a permis aussi d'avoir envie de le partager avec d'autres. Donc ça, c'est le point de départ.
Je dirais aussi que le fait d'avoir des studios sont des pratiques qu'on avait déjà isolément, Hélène, Didier et à la compagnie, c'est-à-dire les pratiques d'enseignement, d'accueil de la danse quand elle se crée, mais la danse aussi quand elle se propose au regard du public. Et donc quand on a réalisé les uns les autres qu'on faisait finalement les mêmes actions, on s'est dit, tiens, pourquoi pas mutualiser nos envies, nos désirs et faire une sorte de focus comme ça.
D'accord. Donc on pourrait aussi imaginer qu'un autre chorégraphe, s'il dispose aussi d'un lieu, s'il est un peu aussi dans ce même rapport à la danse, qu'il vous rejoigne dans un prochain mouvement.
C'est arrivé déjà.
Oui, et ce serait bien que la dynamique aille plus loin.
On peut se poser la question aussi, comment va la danse, hein, parce que le cinéma, on apprend que c'est de plus en plus difficile de tourner des films à petit budget. Il y a eu de grandes discussions. Alors la danse, on en parle un peu moins. Donc finalement, on peut saisir l'occasion de vous avoir tous les deux pour en parler. Comment va la danse? Est-ce que c'est simple, sans se plaindre forcément, mais est-ce que c'est simple actuellement de monter des pièces?
Moi, je dirais que la danse va bien dans le sens de la créativité et de l'explosion de ces formes, que ce soit avec l'envie des artistes d'aller voir ailleurs ou de rencontrer d'autres pratiques. Enfin, la danse a gagné en énergie, en diversité. Par contre, il y a quelque chose qui, peut-être comme le cinéma et d'autres pratiques, est très difficile, c'est que les artistes sont nombreux, n'arrivent pas à diffuser leur spectacle. Et ce qu'on note aussi, c'est que la place de la danse contemporaine dans les programmations a très très fortement diminué. Donc il y a un vrai problème de débouchés pour les productions des artistes.
La danse va bien, je confirme. Elle va vraiment bien. Il y a beaucoup de plus en plus en fait d'artistes hein, qui s'y donnent, qui s'y attellent. Et puis je crois qu'on peut aussi voir ce mouvement un petit peu d'invasion presque de la danse dans les arts de la rue, dans d'autres circuits que les circuits habituels. Et ça, je dirais que c'est plutôt une bonne chose. À un moment donné, la danse sort des forteresses, des lieux habituels, des lieux prévus pour à cet effet. Et là, du coup, voilà, je pense que pour pour moi, il me semble qu'il y a, il y a une belle dynamique. On y perd un petit peu son latin parce qu'il y a une multitude de propositions. Et en même temps, justement, je pense que ça oblige le spectateur, les directeurs de salle, les journalistes, les critiques à avoir des regards un peu plus acérés, un peu plus curieux. Et puis, comme disait Hélène aussi tout à l'heure, voilà, je pense que c'est aussi au regard de... Au regard d'un moment donné où on est une période un peu trouble, de voir et d'assister au fait que finalement ça n'étouffe en rien la dynamique et la créativité, je trouve ça plutôt jubilatoire et enthousiasmant. Alors Didier Théron, bonjour, vous venez de nous rejoindre. On va parler cette fois-ci de Mouvement sur la ville, 5e édition, donc une édition plus courte cette année, et j'ai l'impression avec beaucoup plus de pièces. C'est le cas ?
On n'a pas compté, à vrai dire. Hein. C'est peut-être la diversité qui est plus grande et qui donne une sensation de richesse à cette édition. Les propositions sont beaucoup plus diverses.
C'est vrai que c'est on n'a pas compté, comme on disait tout à l'heure. Et je pense que c'est intéressant de savoir que voilà, pour nous, l'objet, il est moins dans le nombre de propositions qu'on va faire, dans la mesure que ça va être en termes de quantité. Mais c'est plutôt d'être connecté à nos choix, nos exigences, à ce qu'on pense être notre pertinence en tant qu'artiste, d'invitation à d'autres artistes.
Et puis c'est toujours la même recette, c'est-à-dire qu'il y a des compagnies qui sont locales, mais il y a aussi des compagnies qui viennent de partout, notamment, je crois que ça fait déjà 3 ans que la compagnie australienne vient ici, hein, Didier Théron.
Oui, c'est pour la soirée jeune danseur. Il y a une compagnie australienne qui est une compagnie d'étudiants, plus, qui vient se mêler aux étudiants du conservatoire et qui donc vont performer chez nous le 30. Oui, donc il y a les fidélités. Mais moi, je pense que plus généralement, c'est que Mouvement sur la ville, c'est le numéro 5. C'est-à-dire que c'est une chose pérenne, enfin, qui s'installe, qui est là, qui est présente, à laquelle nous travaillons, nous continuons à nous battre pour que ça existe, parce que ça, c'est important. C'est là, ça occupe le terrain, c'est le cas de le dire, hein, parce que cette année, on a eu ce slogan que je trouve intéressant, la danse contemporaine, c'est là. C'est-à-dire que on désigne aussi où on va placer la danse. C'est très important. On est dans ce sens-là, je trouve, dans le sens de Montpellier Danse. Montpellier Danse, c'est deux mots, danse et Montpellier, un lieu et la danse. Nous, on dit aussi la danse contemporaine, c'est là, elle est dans la ville à notre façon. Ça, c'est très important. Et donc, c'est la pérennité du mouvement qui est intéressante. Malgré ce qu'on venait de dire tout à l'heure, où la danse est attaquée, où les arts sont attaqués en général, où sont fragilisés, on continue parce qu'on pense que c'est très important, ça.
Et cette année, j'ai l'impression aussi, hein, pour cette 5e édition, qu'il y a plus de lieux, 10 lieux, alors que je me souviens des éditions qui ont commencé avec vos 3 lieux. Hein, alors ça aussi, c'est une idée aussi d'investir vraiment la ville.
Je crois que c'est le reflet aussi des dynamiques des compagnies et de nos compagnies respectives, et puis des dynamiques des compagnies en général, de ne pas s'attacher à un seul lieu, à une seule relation, mais de s'ouvrir, d'ouvrir la danse non seulement dans les lieux de diffusion, mais des lieux aussi de création. Les studios, bon, ça a toujours été le cas depuis la première édition. Mais là, de plus en plus, on travaille avec d'autres partenariats qui sont aussi des villes, des mairies, des quartiers, des associations. Et je crois qu'on est on passe presque de mouvement sur la ville à mouvement dans la ville, où on s'inscrit de plus en plus en fait, dans l'existence de cette ville-là, qui n'est pas uniquement l'existence d'une ville du point de vue artistique, sensible, de pratique, de diffusion. Lui, on se retrouve entre soi, mais là, on va vraiment investir des lieux où on va surprendre aussi non seulement le spectateur, mais le passant.
Et on peut en parler justement de ce flash mob. Hein. Vous, Yann Lheureux, vous allez mettre en place un flash mob. Voilà, on rappelle brièvement le principe.
Est-ce que vous allez y faire ? Le principe de flash mob, en fait, c'est une flash mobilisation, c'est-à-dire qu'on va se retrouver à 20, 30, 40, 100, personne ne le sait encore. C'est l'intérêt du flash mob, c'est que ça doit à un moment donné dépasser l'organisateur. Et là, c'est un flash mob un peu particulier. Peut-être ça tire un lien direct avec ce qu'on disait tout à l'heure. C'est un flash mob qui a été co-organisé, co-construit, co-créé avec les jeunes de l'Enclos Saint-François, qui sont une MEX, une maison d'éducation. Et c'est dans le cadre d'un projet Pousse Culture avec le Conseil Général qu'on a décidé donc d'associer ces jeunes à la constitution de cet événement, qui doit rester un événement jubilatoire, jouissif même. et qui est pour moi une autre façon de présenter la danse. On n'est ni spectateur, ni praticien, mais on vient sans rythmer, et tout un chacun est invité comme ça à venir partager un moment festif, de joie, et puis un moment de communion, parce que c'est aussi ça la danse, c'est élever les âmes.
Et donc il y a la possibilité hein, pour vous, chers auditeurs, eh bien, d'apprendre les pas de ce flash mob, c'est ça, hein, et il faut aller sur votre site internet.
Voilà, compagnie, sur le site de la compagnie, sur le Facebook de la compagnie, il y aura un lien aussi sur le Facebook de Mouvement sur la ville.
On va parler brièvement de la programmation, peut-être l'allure générale. Ça va commencer d'abord par vous. Hein. C'est d'abord vos propositions qu'on va voir, Yann Lereux. Ce sera à l'atelier et puis aussi au pavillon populaire, donc là pour le flash mob en l'occurrence. Mais à l'atelier, le samedi par exemple, si vous deviez choisir une pièce, sachant qu'elles vont se suivre, hein, ça commence à 14h et ça se termine ensuite à 15h30.
Oui, on a choisi en fait de laisser le spectateur se heurter à plusieurs formes les unes après les autres. Et c'est un peu difficile hein, de choisir comme ça une des pièces, donc je préfère dire peut-être deux, trois mots sur chacune d'entre elles, je me sentirais plus à l'aise parce que j'ai invité ces artistes-là parce que je les valide tous dans leur talent. La première, Sarabande avec Jean-Sébastien Rampazzi, c'est un duo-trio avec un trompettiste de renom. Et le tango va flirter avec la danse contemporaine, quelqu'un qui est vraiment dans une dimension internationale de par sa pédagogie et puis son talent de danseur. Et qui passe ses premières âmes dans cette friction des langages. Ensuite, il y a Shadorama, la compagnie Les Éponymes. C'est Yuri Golovin, tout le monde connaît le théâtre Golovin à Avignon. C'est le fiston. Il vient là avec un solo où vont se confronter images, sons, danse. Il a une danse assez puissante. Et j'ai bien aimé aussi ce rapport à l'imaginaire, à l'image, qui est un rapport traité à l'épure. Ensuite, on continuera avec Aster, la compagnie de Marilyn Ferro. Marilyn Ferro, en fait, c'est Marie-Adeline Choquet qui en est la chorégraphe. Elle revient de Montréal, elle était 5 ans là-bas. Elle y a créé un solo qui est très, très engagé, tant dans l'aspect écriture que dans la danse qu'elle interprète elle-même d'ailleurs.
Et puis c'est inspiré à un des émeutes internationales, hein, c'est comme ça qu'elle le présente. Oui.
Voilà, exactement, vraiment quelqu'un qui est en prise avec son temps. Et puis on terminera cette journée du samedi avec Smurf Dean. Là, c'est Selim Ben Safia, qui est un danseur tunisien que j'ai rencontré au Festival de danse à Carthage, il y a 2 ans, qui a présenté ce solo et qui est quelqu'un qui vient du langage hip-hop, de cette culture-là, et qui a décidé d'ouvrir ce langage-là, ce vocabulaire, pour créer sa propre grammaire. Et voilà, je trouve toujours intéressant d'assister à, non seulement à la naissance, que là, il a déjà effectué ce solo-là, mais d'assister à une autre façon de présenter une friction de langage entre, là, pour le coup, hip-hop et danse contemporaine.
Ça, ce sera la première journée, finalement, du samedi, donc avec 4 pièces hétérogènes, hein, et puis en forme courte. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que ça peut donner un aperçu à ceux qui sont novices en danse contemporaine.
Hein. Voilà, ce sont les formats assez lapidaires, donc on n'aura pas l'occasion de s'y ennuyer, mais...
On ne sait jamais.
C'est ton jamais. C'est un peu les poncifs qu'on retrouve souvent sur la danse contemporaine. Et là justement, on va à l'encontre de ces poncifs. Alors, ce n'est pas le format de la pièce qui donne ça. C'est vraiment voilà, la conjonction de ces pièces-là.
Alors après, le dimanche, eh bien, ça se passe aussi à l'atelier et puis au pavillon populaire, donc intérieur-extérieur. Hein.
Voilà, on va donc inviter le public à venir chacun des matins, le samedi comme le dimanche, à partager une masterclass avec Eric Languet, un chorégraphe de La Réunion. Donc c'est aussi l'idée que la danse puisse se pratiquer pendant ce temps de mouvement sur la ville. C'est ce que nous faisons aussi tout au long de l'année avec Didier Hélène, où il y a des temps concertés en fait, d'entraînement du danseur. Et là, en fait, hormis ces temps de masterclass le matin, l'après-midi, on retrouvera la compagnie Lips avec Patrice Ucelio. et 5 danseurs. Une pièce vraiment intéressante parce que c'est une pièce, pour le coup, avec un bon format, 50 minutes, et surtout 5 danseurs. Alors, par les temps qui courent, si la danse, de mon point de vue, va bien, je pense que la situation des arts est critique, mais la danse va bien. Et là, en l'occurrence, la danse va bien parce qu'ici, il s'y adonne à plusieurs, et c'est intéressant de voir ce type de format qu'on n'a pas l'habitude de voir. 5 danseurs au plateau, des danseurs interprètes vraiment de grande qualité. Et ensuite, on se retrouvera après le flash mob au pavillon populaire où j'enchaînerai avec Éric Languet, partenaire au long cours qui nous vient de La Réunion, compagnie d'Iviette, soliste des Baleines de Nouvelle-Zélande, un parcours un peu incongru. Et on va travailler sur une forme qui s'appelle J'embrasse pas, une pièce qu'on a déjà vue sur plusieurs festivals, Chalon, dans le Huyne, etc. L'idée, c'est en fait deux hommes qui se racontent au travers un lieu, deux micros, des musiques qu'on gère en direct. Et on se raconte autant qu'on raconte le lieu dans lequel nous nous trouvons.
Ensuite, eh bien, il va y avoir une pause quand même lundi. Voilà, il ne va rien se passer, hein, je crois. Ne pas faire d'erreur. Et ensuite, c'est vous, Hélène Catala, qui reprenez un peu cette programmation de Mouvement sur la ville avec Concerto pour Zapateado.
C'est à la salle 3, c'est la compagnie des Herbes Folles. Alors, ce qui caractérise un petit peu mes choix cette année, c'est d'avoir invité des compagnies qui ont été en résidence. Alors, la compagnie des Herbes Folles aura travaillé à la salle 3 plusieurs semaines. Et une autre chose, c'est le partenariat avec la chapelle, donc la chapelle Gély, puisque la salle 3 est voisine de la chapelle. On est tous les deux dans le quartier Figuerolle et on a décidé de proposer des choses ensemble. Donc, les Herbes Folles, c'est d'abord deux jeunes danseuses issues du Conservatoire de Montpellier et une musicienne, une pianiste, qui ont eu envie de travailler autour de ce qui pourrait être un nouveau langage entre le flamenco et la danse contemporaine. Donc, ce n'est pas un spectacle de flamenco, hein, c'est vraiment une recherche. C'est tout à fait charmant dans le sens où c'est des danseuses qui ont envie de mettre en avant le vocabulaire et l'art de la composition musicale et dansée. Et donc, nous avons eu envie de leur donner une double visibilité. Toutes les compagnies accueillies à la salle 3 joueront deux fois, tout simplement parce que notre jauge est petite, entre 40 et 50 spectateurs, et que aussi c'est une façon pour les compagnies de rencontrer des professionnels et d'imaginer ensuite pouvoir être diffusées.
Le reste de la semaine, à la salle 3, vous avez eu d'autres invités, d'autres coups de cœur?
Oui, en fait, on fait un focus cette année sur l'Irlande. Deux compagnies irlandaises qui auront été en résidence à la salle 3 et dont on va montrer le travail. Alors là aussi, c'est quelque chose qui me tient à cœur, moi, dans la dynamique de Mouvement sur la ville. C'est l'idée de créer un réseau. Donc, c'est des compagnies qui viennent montrer leur travail à Montpellier, mais qui, elles aussi, travaillent de la même façon dans leur pays, c'est-à-dire à essayer de développer un festival, une programmation et donc encore une fois des capacités pour la danse contemporaine de voyager. Donc là, c'est la compagnie Iseli Chiodi, deux danseurs qui ont monté ce groupe eux-mêmes sont pas du tout irlandais. Donc on a une Irlandaise et un Suisse qui travaillent avec un groupe de Mexicains et avec une création musicale là par des Irlandais. Donc c'est un projet un peu caractéristique de ce qu'on vit en ce moment. C'est vraiment la rencontre, le métissage et l'exploration. Donc ils seront là aussi deux soirs à la salle 3.
Et puis aussi, eh bien, il y a une de vos pièces, hein, qui est jouée, vous jouez. Hein.
On va reprendre Blind, donc ça c'est un duo que j'ai créé en avril avec la chorégraphe sud-africaine Désirée Davids. Le propos, c'est aussi de se mettre en face de l'autre, de la façon la plus nue possible. Qu'est-ce que j'ai amené à l'autre et comment je suis capable de recevoir de lui. Donc, entre la France et l'Afrique du Sud, c'est le choc de deux cultures. Et donc, ça a fait l'objet d'une pièce d'une heure qu'on va donner à la chapelle donc, pendant deux soirs.
On peut dire que vous terminerez ce mouvement sur la ville 5e édition avec votre programmation, en tout cas, avec Fast Portraits. J'imagine que c'est en anglais, là, inspiration avec Caravage, avec de la peinture.
Oui, mais c'est une chorégraphe, donc Lise Roche Company. C'est une des principales chorégraphes d'Irlande aujourd'hui. Son travail est très reconnu là-bas. Elle vient avec un quintet. C'est une danse un peu, comment dire, c'est de la dentelle chorégraphique. C'est quelqu'un qui travaille encore beaucoup sur le rapport entre les choses, la délicatesse des connexions, qui s'inspire de la peinture, mais c'est une proposition dans tout ce que l'art de la danse peut proposer d'élaborer et de savant, avec là aussi une équipe d'interprètes absolument fantastique.
Avec Didier Théraud maintenant, eh bien, on va voir aussi que vous vous occupez d'une partie de la programmation de ce mouvement sur la ville 5e édition, avec là aussi une hétérogénéité dans les lieux. Hein, il y aura de l'extérieur, de l'intérieur. Médiathèque Jean-Jacques Rousseau, il y a votre lieu, l'espace Bernard Glandier, et puis il y a aussi Pierre Vive.
C'est hétérogène à la fois, c'est sur le quartier de la Mosson, de la Paillade. Donc pour nous, c'est ce territoire sur lequel on se centre et à partir duquel on élabore les projets. Donc, effectivement, il y a des partenariats cette année avec Pierre Vive et avec la médiathèque Jean-Jacques Rousseau, avec laquelle on a beaucoup de projets en commun, hein, que ce soit avec les enfants, que ce soit avec des créations que nous avons faites là-bas. Voilà, donc on investit la médiathèque Jean-Jacques Rousseau dès le 26 juin avec deux compagnies. Une compagnie qui est d'ici, Michel Muret, qui... L'ensemble des compagnies qui sont aussi accueillies sont des compagnies qui ont été en résidence chez nous.
Mmh.
Donc voilà, c'était sorti de résidence.
Donc c'est un accompagnement. Hein.
Voilà, c'est un accompagnement. Et à la fin, donc, il y a un mouvement sur la ville où on montre tout ce qui a été élaboré, on présente. Donc voilà, sur le 26 juin, le mercredi 26 juin, il y a déjà la médiathèque Jean-Jacques Rousseau avec donc, Michel Muret et Dylan Crossman. Dylan Crossman, c'est un des derniers danseurs de North Cunningham. Et Dylan Crossman, c'est quelqu'un qui a travaillé à Montpellier, qui a vécu à Montpellier. Et on s'est rencontrés autour du projet, d'un projet que nous avons sur ce quartier, qui s'appelle Rond-Point Cunningham, avec les écoles et les collèges du quartier. Et il a proposé de faire un solo, et il fera un solo. Et il présentera ça donc le mercredi 26. Et ce même programme sera rejoué le jeudi 27 à Pierre Vive à 17h30.
Voilà, une petite forme de 8 minutes.
Petite forme, toujours des petites formes. C'est vrai que nous sommes centrés plus sur un travail de soli ou un travail de duo pour cette édition. Ensuite, il y aura une chose importante aussi. Tout va se regrouper pour nous sur le 29 juin et 30 juin. Le 29 juin, il y aura un atelier. C'est assez intéressant, ça. C'est Dylan Crossman qui va proposer un atelier de 2 heures ouvert à tous, pour découvrir les principes de création de Merce Cunningham. Donc ça se passe à l'espace de Ringlandier, c'est ouvert et c'est gratuit à toute personne qui a envie de venir essayer des principes simples de la composition Cunningham, donc avec ce danseur.
Donc un petit côté pédagogique, est-ce qu'il peut manquer parfois pour
oui,
la danse
fois, c'est à la fois c'est un côté pédagogique, à la fois un côté très créatif, parce que c'est vraiment, il va expliquer comment Merce crée ses pièces, quoi. Ça, c'est très intéressant, avec le hasard, avec comment Merce faisait, quoi. Comment lui, il a vécu cette relation avec Merce Cunningham, puisqu'il a travaillé, je crois, 3 ans avec lui. Donc ça, c'est superbe. Et ça sera suivi de l'après-midi, et une scène ouverte avec plusieurs chorégraphes qui vont présenter leur sortie de résidence, on va dire, des pièces. Donc il y a Héloïse Deschemins, qui va proposer un solo qui s'appelle Stand By Me. Il y a donc Dylan Crossman qui va faire son solo à nouveau, là, pour la 3e fois. C'est un peu l'invité phare de notre programmation. Il y a André Ahal qui a travaillé avec Emmanuel Gatt, qui est une excellente danseuse, superbe danseuse, qui proposera un solo. Yiwen Cheng, qui est une danseuse taïwanaise, dont on a aimé le travail autour de l'écriture chinoise, sa relation avec son histoire, puisqu'elle est aujourd'hui en France, mais elle est originaire de Taïwan. et Audrey Bodiguel, qui, elle, est une danseuse avec laquelle j'ai travaillé et dont je suis le parcours, et qui a été aussi en résidence chez nous, et qui vient de Nantes. Voilà. Et le dimanche 30, nous avons toute une journée de jeune danse avec le conservatoire et la compagnie Link, qui vient, elle, de Perth, de cette université.
En Australie, non ?
D'Australie, oui. Donc il y a tout un échange qui est autour de cours et de l'enseignement, mais aussi ils vont, c'est le conservatoire et de région va et donc la compagnie Ling vont présenter des pièces à 18h, et c'est toujours intéressant de voir ces jeunes danseurs s'affronter à des pièces de répertoire. Et donc ça, c'est la journée du dimanche 30.
Il faut bien regarder sur les sites respectifs quels sont les programmes. On précise que l'entrée est libre pour tous ces spectacles. Alors non seulement parce qu'il y en a à l'extérieur, mais même quand il s'agit d'aller à l'atelier ou à la chapelle, voilà, l'entrée est libre.
Et c'est très important pour nous, d'abord pour ouvrir à tout le monde la danse contemporaine, mais aussi parce que ça permet aux danseurs, aux amateurs de Montpellier de voir 5, 6, 10 propositions, de croiser d'autres artistes. Ça aussi, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, que le mouvement sur la ville soit une possibilité pour les gens de se rencontrer, de se parler à la fin des spectacles, et peut-être de monter des projets à venir. On peut imaginer qu'une Taïwanaise, un Irlandais et une Sud-Africaine aient envie de se rencontrer et d'échanger autour de ça. Donc ça fait vraiment partie de la dynamique de Mouvement sur la Ville, et on le veut comme ça.
Donc on le rappelle, c'est du 22 juin au 2 juillet, Mouvement sur la Ville, 5e édition. Pour résumer, ces 18 compagnies, 23 rendez-vous artistiques. Il y a 3 masterclass, il y a un pique-nique le dimanche, le premier dimanche, voilà. Par Clémenceau. Et puis ce sont dans 10 lieux, et il y a aussi le flash mob. Donc eh bien, vous pouvez participer à ce flash mob qui sera filmé.
Il sera sûrement filmé, oui.
On l'espère.
Oui, j'espère, oui, c'est une bonne idée.
Trace. Toutes les infos sont disponibles donc sur vos sites respectifs. Vous allez les donner.
Donc le site de Hors Commerce, www.hors-commerce.com.
www.didierterron.com.
www.compagnieyannelereux.com.
Et voilà pour ce qui concerne Mouvement sur la Ville. Ce 21 juin, c'est la fête de la musique. Côté Divergence, à partir de midi, ça va être DJ Selecta et puis Sus Mon Beat le soir, comme depuis 4 ans. Mais il y aura aussi pour tous les goûts, il y en aura aussi pour les punks, puisqu'il y aura une scène punk ce 21. Et pour en parler avec nous, eh bien, il y a Didier et Moira. Et on attend Renaud qui va aussi nous rejoindre pour parler de cette scène qui se passera au Café Molière, derrière l'Opéra Comédie, avec... donc 3 groupes, Dacha, Johnny et Angry Sometimes. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Salut.
Alors on va présenter vite fait les groupes, on n'a pas beaucoup de temps. Angry Sometimes se définit comme du punk mélo.
Oui.
Alors je sais bien que c'est toujours sympa de trouver de nouvelles étiquettes, puisque ça fait un petit peu, ça fout la pagaille dans les bacs des disquaires, etc. Ça les oblige à aussi être un petit peu créatifs pour une fois. Pourquoi mélo?
Pourquoi mélo? Parce que c'est pas du punk braillard au sens classique du terme, en fait. Y a toujours une mélodie au niveau du chant et au niveau des parties de guitare aussi, donc on serait quand même du punk par l'énergie, par les bases. Mais il y a aussi ce côté un peu innovant, à la Bad Religion, à la NOFX, tout ça, un peu le punk californien. Voilà, c'est plus dans cette branche-là.
Angry Sometimes, c'est un hommage à un titre connu?
Oui, c'est un hommage à un titre des Burning Heads, un groupe orléanais donc, qui fait partie de nos principales influences.
Et donc des fois vous êtes en colère, mais pas toujours. Depuis quand?
Depuis un an.
Un an.
Un an tout pile, ouais, pratiquement. Ouais. On a commencé à jouer comme ça. Et ouais, il y a un an, et donc on a fait notre premier concert en été dernier. Donc là, voilà, ça va faire notre, on fête notre anniversaire, quoi.
Voilà. Et puis vous êtes en train d'enregistrer un petit peu des choses ou etc.
Oui, on a commencé, ouais. Donc on attend le mix. Là, c'est le batteur qui s'y colle. C'est lui qui nous enregistre, vu que lui il a un G-son. Et donc on attend ça. On va peut-être réenregistrer, vu qu'on a un autre guitariste qui est venu se greffer à l'histoire. Donc voilà.
Alors on écoutera pour se quitter. Dacha, vous existez depuis combien de temps?
On est un peu plus vieux, nous. On a débuté, je crois, en octobre 2009.
D'accord.
Bon, un petit peu plus vieux quand même.
Ah, un petit peu plus vieux, ouais. Et puis pareil, nos influences remontent à plus loin. Nous, on va piocher dans le punk américain fin des années 70 et aussi dans la... Tiens, salut Renaud.
Eh ben voilà, il est là, il arrive.
Salut.
Il arrive.
Je continue donc
avec ses belles lunettes.
On est aussi pas mal influencé par toute la vague punk britannique des années 77, tout ça. Donc on pratique aussi une espèce de punk rock matinée d'accent un petit peu reggae, ska, rocksteady un peu à ce que faisaient les Ruts, les Clash, les Specials à la grande époque, quoi. Et puis on fait ça à notre sauce, voilà.
Et on va en écouter tout de suite un petit extrait. Dacha qu'on écoute et qui seront avec Johnny et Angry Sometimes à partir de 19h ce 21 juin au Café Molière derrière l'Opéra Comédie. Et puis Renaud qui nous a rejoint et qui n'a pas d'extrait à passer de Johnny. Alors, on dit Johnny, on dit Johnny, on dit comment?
On dit Johnny. Éventuellement j'ai un extrait à passer.
Ah bah oui, mais alors là on n'a pas eu le temps de le caler et tout. Aïe.
Oui, c'est de ma faute, mais c'est pas grave.
La formation existe depuis combien de temps?
Ça va faire 2 ans bientôt. 2 ans sous sa forme actuelle parce qu'on a eu un batteur qui a fait que 7 mois avant d'arrêter la batterie pour jouer, pour chanter dans les Captain Stark.
D'accord.
Voilà, c'était Emmerich qui joue dans Harry's Matrix, c'est notre premier batteur. On a une évolution depuis 2 ans avec un nouveau qui le fait bien, on se régale, ça envoie.
Influence
Sonic Youth, le hard rock, ACDC, ce genre de choses, le rock psychédélique et la noise.
D'où l'étiquette post-raw power.
C'est ça, parce que un de mes plus... comment dire, une partie de mon épine dorsale, c'est les Stooges, les Raw Power notamment.
Tiens, on est deux.
Ouais, je suis sûr que je suis pas le seul au monde. Et tout se base là-dessus. Toutes les influences se mélangent sur le Raw Power, en fait.
Combien de temps vous allez jouer à partir de 19h? Ça va durer jusqu'à...
On embraye à 19h et on joue non-stop quasiment jusqu'à au moins 1h du matin. On va essayer de faire le moins de pauses possible. Donc les trois groupes vont tourner tout au long de la nuit régulièrement, les uns après les autres.
Chacun va faire plusieurs sets.
Ouais, on va faire plusieurs sets. On va
jusqu'à que les doigts saignent.
Voilà, on va se faire du mal.
Et que les baguettes se brisent.
C'est la soirée marathon, exactement.
D'accord. Eh bien, qu'on se le dise, amis de la musique punk, ce sera donc à partir de 19h derrière l'Opéra Comédie. On va se quitter donc avec un titre de Angry Sometimes. Peut-être un petit commentaire sur ce titre.
Je sais pas c'est lequel.
celui que tu m'as envoyé.
C'est Julien qui l'a fait, c'est pas moi.
Ah, c'est Julien qui l'a envoyé. Alors,
ce sera le seul commentaire.
Bien, si, c'est, j'ai le titre sous les yeux. Le temps que je retrouve la ligne, c'est Time Effect.
Time Effect, ouais, bah, c'est un des morceaux les plus mélos qu'on a parce qu'on en a avec des influences plus hardcore. Et ouais, celui-là, il est très influencé par le punk californien, beaucoup. C'est très mélodique, donc voilà, pour répondre à la question que tu me posais tout à l'heure. Mélo, c'est ça.
Eh bien voilà, on va s'en faire une idée. Tout de suite, on vous remercie Didier, Renaud, Moira. On vous souhaite une très bonne fête de la musique.
Ouais, merci beaucoup.
Salut.
Merci beaucoup. À bientôt. Ciao.
À présent, on va parler d'une comédie musicale rock satirique écrite par Frank Zappa et jamais jouée sur scène. Ça sera joué sur scène ce 2 août 2013, ce sera à Bad Doberan en Allemagne lors de la Zappanal 24e édition pour commémorer la mort prématurée de Frank Zappa il y a 20 ans. C'est une initiative portée par l'AMMD dont vous connaissez l'émanation par le groupe Seb Cachotte probablement qui s'est déjà produit à Montpellier. L'AMMD et c'est Aurélien Roux qu'on va rejoindre au téléphone dans quelques petits instants pour parler de ce projet titanesque.
Once upon a time, must have been round October a few years back, in one of those top secret laboratories the government.
Nous sommes à présent en ligne avec Aurélien Roux de l'AMMD. Bonjour.
Salut.
Alors on est ensemble pour parler bien non pas d'un des multiples projets de la MMD qui, rappelons-le, est une association basée au Mans qui œuvre dans le champ artistique, principalement la musique, et toujours avec des logiciels libres et tout ce qui tourne autour. Alors moi j'ai souvent dit sur Divergence, parce qu'il y a des fois des gens qui disaient ouais, pourquoi vous passez pas que de la musique libre, etc. Moi j'avais dit non, la musique c'est trop important pour s'arrêter à cette question-là, on va pas s'empêcher de diffuser, même si c'est le répertoire de telle ou telle société civile de gestion de droits critiquable. La musique, c'est trop important, comme le disait Frank Zappa, « Music is the best ». Et c'est justement à propos de Frank Zappa qu'on t'a au téléphone, puisque vous avez eu l'idée folle de monter une comédie musicale satirique, bien évidemment, puisqu'on parle de Frank Zappa, qui s'appelle « Thing Fish », cette chose poisson qui, jamais de son vivant, n'a été montée sur scène. Alors, est-ce que c'était, j'imagine, c'était un des incitatifs pour monter ce projet ? J'imagine que le premier incitatif pour monter le projet, c'est, on va dire, vous faites partie des fans de Frank Zappa, c'est bien ça ?
Alors oui, clairement, on est très très dans la filiation, enfin pour un certain nombre de personnes de la MMD, très dans la filiation de Zappa. La façon dont c'est arrivé, en fait, c'était carrément autre chose, c'est que Thingfish n'est pas forcément un album, parce qu'il est sorti en album, c'est pas forcément un album très très connu de Zappa, ni très, on va dire, reconnu en tant que tel. Et donc un jour on l'a écouté comme ça, je sais pas pourquoi, et on est tombé sur un morceau qui s'appelle Crabgrass Baby, et on s'est dit la vache, mais on dirait du Seb Cachotte actuel quoi. Donc on a proposé de monter le truc avec Seb Cachotte et de voir ce qu'on pouvait en faire avec un petit côté hip-hop technoïde glauque quoi. Et voilà quoi, c'est juste de ça que c'est parti. Alors après, effectivement, Zappa, c'est un peu l'inspirateur principal, etc. Et c'est un peu le dilemme permanent, c'est-à-dire, jouer du Zappa, c'est quand même quelque chose qui a la limite de l'interdit pour la famille Zappa et qui est très très loin de l'art libre pour la MMD, quoi.
On précise que ce spectacle Thingfish sera joué cet été à la Zappanale, qui est un festival dédié à la gloire de Frank Zappa, qui lui-même a eu des démêlés avec la veuve de Frank Zappa par rapport à l'utilisation de la moustache, il me semble, sur une des affiches. Donc effectivement, là, on est dans la musique pas libre du tout, ce qui nous a pas empêché de vous dire il faut monter quand même Thingfish sur scène.
Clairement, parce que bon, c'est un projet qui est quand même assez délicat. Donc là c'est en l'occurrence 13 personnes sur scène, c'est un truc complètement taré qui est très drôle évidemment, avec plein de problématiques qui sont abordées qui nous touchent et qui nous font rire, que ça soit le féminisme pro-sexe ou des choses de ce type là. Là c'est les 20 ans de la mort de Zappa. C'était le moment ou jamais de le faire, quoi. Donc...
Pour ceux qui méconnaissent ce truc, en fait, le pitch de la pièce, c'est un couple de youpies qui arrive pour voir une comédie musicale, un spectacle à la Broadway. Puis en fait, c'est un spectacle dans le spectacle, puisque Harry et Rhonda, les deux personnages principaux, ils se pointent, ils s'asseyent, et puis quand le spectacle commence à dégénérer, c'est là qu'on voit tout ce qui sépare finalement ce couple. C'est un spectacle un petit peu pour adultes, mais néanmoins, c'est une critique sociale à la fois, on va dire, du show business à la Broadway, et puis aussi de tout l'appauvrissement d'humanité qui stigmatise la soi-disant réussite américaine en quelque sorte.
Clairement, ces deux personnages vont voir un truc qui s'attendent à avoir des poupées sur des marionnettes, des fées qui sont en l'air, du vent qui souffle dans la vallée, des choses très belles. Ils se retrouvent face à des espèces d'êtres ignobles et incontinents qui commencent par leur yeux, donc voilà, les choses sont vite. Et c'est pas de la pièce de théâtre comme ça précise.
I know, dear, but they pissed on me, too. He did say they were incontinent.
You smell this. I think we should get out of here before they do something else to us.
Et puis à partir de là, ils se retrouvent embarqués dans l'histoire et finalement ils font une espèce de forme de psychanalyse forcée au pas de charge qui révèle que le petit Marie Modène, finalement, depuis toujours, il avait qu'une envie, c'était de révéler son homosexualité latente. La nana, elle est dégoûtée, mais finalement, elle arrive à se sortir de tout ça et à se gérer toute seule et donc à se reproduire avec un attaché case. Enfin bref, voilà, c'est un... D'où le côté féministe, hein, d'ailleurs, c'est qu'à la fin, les filles n'ont plus besoin des hommes, donc ça c'est parfait. Et voilà, et le tout sur fond de critique sociale et puis de théorie du complot, parce que Zappa était quand même vaguement persuadé que le sida avait été inventé pour tuer les noirs et les homos.
Oui, ça revient souvent, tous les éléments du complot, etc. Là, en l'occurrence, il s'agit de mettre dans l'eau courante une espèce d'autre colonne galoute qui va rendre les gens encore plus misérables qu'ils ne le sont, de sorte à ce qu'ils achètent encore plus d'objets dont ils n'ont absolument pas besoin. On retrouve là-dedans aussi la critique de la société de consommation à outrance.
Ah bah clairement, et puis c'est les deux personnages principaux, enfin principaux, il y a beaucoup de personnages principaux dans ce truc-là, comme souvent chez Zappa, c'est assez... disons qu'il y a beaucoup de nœuds, c'est inextricable, mais les deux personnages principaux sont clairement là-dedans, et on le voit bien d'entrée de jeu, voilà, ils arrivent avec la fourrure qui va bien, et tout du long, même dans les scènes les plus osées, puisqu'il y a des scènes un peu pornographiques, même dans les scènes les plus osées, le type se retrouve encore à se demander si les papiers qui viennent de tomber de la valise sont pas des papiers très importants, des contrats de la Warner ou des choses comme ça, enfin ils sont vraiment dans une espèce de forme de... Voilà, de pression permanente à ce niveau-là, quoi.
Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu Dancing Fish, on retrouve bien évidemment, ça c'est un des talents de Zappa, de réutiliser des briques de son œuvre pour toujours composer de nouvelles histoires. On retrouve quand même des titres fort connus comme You Are What You Is ou The Torture Never Stops et d'autres.
C'est un peu un enfant pauvre, hein, cet album au départ, c'est quelque chose qu'il voulait monter sur scène et il a jamais eu les sous pour le faire. Alors, je pense que le projet en même temps était un peu grandiloquent, on va pas le monter avec le budget qu'il avait prévu, parce qu'on ne l'aura jamais. Mais donc en fait c'est un album qu'il a composé beaucoup au sein clavier, c'est-à-dire qu'il utilisait des samples de ses musiciens passés, etc. et qu'il remettait ça bout à bout, donc on retrouve énormément de trucs qui sont dans les albums précédents, comme tu disais, il y a You Are What You Is, Torchum, ou alors encore Blue Light, ou je sais plus, Zora je crois, enfin il y en a vraiment, quasiment tous les titres sont déjà tirés d'autres albums, quoi. Et de notre côté, on a prévu de faire du mash-up dessus, c'est-à-dire de finalement intégrer même d'autres titres encore, peut-être plus de la période 70 ou alors de la période carrément après, juste avant les années 90, aux morceaux qu'ils ont, qui sont sur Sing Fish au départ.
Ça implique une création de costumes. Au niveau des décors, vous avez trouvé un raccourci en prévoyant des décors vidéo projetés. C'est quand même un sacré boulot qui vous a pris depuis 6 mois maintenant à peu près.
Ouais, on a démarré en novembre là-dessus. Alors effectivement, c'est un sacré boulot. Après, ça rejoint pas mal des choses qu'on fait souvent à la MMD, c'est-à-dire justement de se poser la question de la technique du spectacle et d'essayer de trouver des solutions libres, si possible, à tout ça. Donc là, en l'occurrence, la problématique, c'était de dire, bon, on va jouer dans un festival qui est un festival de musique actuelle. Donc avec des temps de changement de plateau qui sont pas longs et tout, et il est clairement hors de question d'envisager de déplacer un décor complet sur un festival comme ça, parce qu'on n'aura pas le temps de le mettre en place avant de jouer. Donc on part sur du décor vidéo projeté, c'est quelque chose qu'on avait commencé à faire sur un spectacle jeune public il y a quelques années. Donc voilà, on passe directement du jeune public au vaguement porno, c'est aussi une des formes d'ambivalence de la MMD. Et donc c'est un logiciel qui s'appelle VSL, qui a été créé par Groulot, qui est au sein de la MMD aussi, et du coup qui permet de projeter le décor en fond de scène et de jouer dans le décor projeté de manière relativement réaliste, et donc d'alléger excessivement la contrainte physique, quoi. Mais par contre, ça demande du taf en amont, forcément. Donc là en ce moment, depuis une semaine et jusqu'à début août, on est 100% du temps à 4 là-dessus, quoi.
Vous avez eu un soutien de la Zapanal qui a acheté le spectacle, nonobstant, même si, comme tu le disais, ce ne sera pas du tout le budget qu'aurait imaginé Zappa à l'époque. Donc vous avez lancé un appel à financement qu'on peut retrouver sur mmd.net. Donc on ne peut qu'encourager les gens à aller se renseigner, à aller voir, et puis à réserver leur billet de train aussi pour aller à Bad Doberan, puisque ce festival, la Zapanal, se trouve au bord de la mer Baltique, à quelques kilomètres de Rostock, ce qui n'est tout de même pas la porte à côté.
Mais oui, du coup, on a lancé cette idée de financement par le public, parce qu'en fait, c'est quand même assez difficile de monter un projet de ce type-là et de le faire financer par, par des financeurs institutionnels, notamment pour la part porno de la chose, qui les stoppe très très vite, et aussi parce que c'est un projet qui est très gros et qui va jouer qu'une fois, parce que simplement, il y a 13 personnes sur scène, c'est très compliqué de renouveler ça plein de fois. Donc ça les freine un peu, donc on est parti sur ce modèle-là. Après, on a essayé de faire attention à pas tomber dans les travers de ce système, c'est-à-dire les trucs à la Kiss Kiss Bank Bank ou Kickstarter ou quoi, où finalement, on doit donner un budget de départ qu'on doit systématiquement atteindre, sinon tout est reversé, et puis avec une ponction assez lourde au passage qui va sur des comptes hautement rentables, etc. Donc on a essayé de monter notre propre outil de financement sur la base de ce qu'ils font eux, en disant, voilà, de toute façon, quoi qu'il en soit, et quelle que soit la part de financement qu'on aura, ce projet existera. Par contre, on va la jouer transparent, on vous dit combien ça coûte exactement, en détaillant chacun des postes. Donc là, on arrive à un budget de 37 000 euros, on peut le dire. Ça peut paraître énorme, mais vous avez le détail et vous savez ce que ça veut dire. Après, si les 37 000 euros sont pas atteints, ce qui à mon avis sera le cas, c'est pas grave, on le fera de toute manière. Mais c'est juste aussi une façon de dire voilà ce que ça coûte de faire un spectacle et voilà ce que ça coûte de faire déplacer un musicien, un technicien sur un plateau. C'est pas des tarifs qui sont... Là on est en train de parler d'un tarif global pour un travail de 10 mois. Quoi. Donc c'est pas non plus 37 000 euros sur 10 mois pour 13 personnes. Si on y réfléchit bien, c'est pas énorme.
Mais
voilà, ça permet un peu de relativiser tout ça parce que je pense que les gens n'ont pas non plus une vision très très claire de ce que ça donne et ce qui, par ailleurs là je bifurque un peu, mais ce qui permet d'avoir des à toute l'industrie du spectacle d'avoir des concerts qui vont être vendus 50 ou 60 000 euros pour 4 personnes sur scène et personne n'en sait rien, et à côté de ça des tas de groupes qui vont être qui vont devoir se battre pour pouvoir avoir la bouffe de payer à la fin, quoi. Donc notre idée de financement par le public, c'est aussi de dire maintenant vous avez les clés en main, vous avez le budget clair devant vous, vous choisissez ou pas de soutenir, mais en tout cas vous savez à quoi vous en tenir, on vous a pas menti sur l'histoire et voilà quoi.
Eh bien Aurélien, on te remercie pour tous ces renseignements, on souhaite que tout se passe au mieux, et nous terminerons par cette citation de Frank Zappa: l'information n'est pas la connaissance n'est pas la sagesse n'est pas la vérité n'est pas la beauté n'est pas l'amour, l'amour n'est pas la musique est le meilleur. Bon courage à tous et à très bientôt.
À bientôt.
Et toujours sur les ondes de Divergence dans cette auberge espagnole, on va à présent parler de la 16e édition du Festival International du Roman Noir qui démarre lundi prochain, lundi 24, et qui se déroule jusqu'au dimanche 30 juin 2013. Comme chaque année, le Festival International du Roman Noir tourne autour d'un thème, et cette année, c'est Affaires de famille. Oui, c'est vrai qu'au sein des histoires de famille, il y a souvent des trucs qui se passent, qui tiennent parfois du roman noir. Avec nous, Patrick Bedos, programmateur cinéma du FIRN. Bonjour Patrick.
Bonjour Gilles, bonjour Divergence.
Et puis on a aussi au téléphone Hélène Couturier qui est romancière et qui viendra parler de son court-métrage Migraine, comédie corse. Elle est au téléphone avec nous. Bonjour Hélène.
Bonjour.
Alors je crois savoir qu'au départ vous travailliez déjà pour l'image à la télévision, puis vous êtes venu au roman, et puis maintenant vous venez un petit peu au mariage de l'image et du roman, à savoir le cinéma, un parcours que je retranscris à peu près fidèlement.
À peu près fidèlement, sauf que j'ai commencé par le roman noir, puisque j'ai publié des romans chez Rivage Noir. Des producteurs ont lu mes romans, donc ils m'ont demandé de faire du scénario, ce que j'ai fait. Et puis là, récemment, on m'a proposé de réaliser un premier moyen métrage sur une histoire corse que j'avais écrite il y a très longtemps pour France Inter, qui était une pièce radiophonique à la base. Et donc, on a tourné Migraine en septembre dernier. C'est effectivement une comédie noire et qui rentre parfaitement dans le thème cette année du film, puisque la Corse, on sait que c'est quand même une grande famille et qu'effectivement, ils sont tous cousins. Et donc, il peut se passer des choses extrêmement rapides et extrêmement violentes, quoi. Voilà. Mmh.
Le Festival international du roman noir, qui vous pouvez en témoigner en tant qu'auteur, est devenu assez rapidement. Alors là, on en est à la 16e édition, donc ça commence à sentir la maturité, mais est vraiment un événement mondialement connu.
Oui, mondialement connu, parce que effectivement, il y a évidemment des auteurs français, mais ils élargissent aux auteurs du monde entier. Il y a des gens très très connu dans le monde entier, je pense à Denis Léane, des gens comme ça, qui sont venus plusieurs fois au FIRN, qui est effectivement qui à chaque fois fait une espèce d'état des lieux sur ce qui s'est passé en écriture noire pendant l'année. Et il faut pas oublier non plus la programmation cinéma, dont Patrick Boudot s'occupe, qui aussi fait écho toujours au thème et à ce qui va se passer dans le domaine de l'écriture.
Alors beaucoup d'auteurs cette année, je me risquerais peut-être à les citer: Olivier Bard-Cabusson, Thierry Béthune, Nathalie Benat, Catherine Bessonard, Xavier-Marie Bonneau, Karen Campbell, Sandrine Colette, Hélène Couturier, vous-même, Thierry Crouzet, Sergueï Dounouvets, Pierre Dovidio, Christiana Falaras, André Ferrand, Catherine Gébel, Sylvie Gragnoté, Jérémy Guèze, Réanne David-Jeanne, Martin Ledin, Sophie Loubière, Marcus Malte, Claude Mespled, Sam Millard, Laetitia Mito, Denise Mina, Patrice Mosconi, Jean-Hugues Opel, Dorès Redondo, Marc Safranco, Ludo Sterman, Olivier Truc, David Van et Fred Vargas. Fred Vargas qui est une grande habituée du festival.
Qui est une grande habituée, qui est la marraine en fait du festival. Et voilà quoi.
Alors, au niveau du cinéma de ce court métrage, est-ce que ça a été un concours de circonstances qui a fait cette synchronicité entre le thème de cette année et ce film ?
Tout à fait, c'était vraiment. Moi, je vous dis, c'est quelque chose que j'ai tourné en 2012, qu'on a terminé fin janvier 2013. Et quand je leur ai montré, puisque je les connais bien en tant qu'auteur de romans noirs, j'avais été souvent invité au film, ils m'ont dit c'est totalement dans le thème. On le prend. Et en même temps, j'ai un peu une double actualité aussi en termes d'image, puisque mon dernier roman, qui est aussi une affaire de famille et qui était. Sorti aux presses de la cité il y a un an, a fait l'objet d'une adaptation par France Télévisions avec Horatica et Ariel Elmaleh dans les rôles principaux. Et donc, j'espère que l'an prochain, on pourra peut-être aussi le passer, quoi.
Alors, comme tous les auteurs que j'ai énumérés, vous serez présente pendant la durée du festival pour rencontrer vos lecteurs dans le cadre assez idyllique du FIRN, sous les platanes. C'est toujours un moment assez agréable et puis qui tranche avec les salons littéraires où des fois c'est 3 km de queue pour arriver à faire signer un bouquin, échanger un vague bonjour avec l'auteur. Là au FIRN, les gens ont le temps. C'est pas le rush et ça c'est plutôt rare.
C'est pas le rush, c'est aussi c'est vrai que c'est en plein air, c'est extrêmement agréable comme lieu. Il y a vraiment effectivement beaucoup de temps, on peut prendre le temps de regarder les livres et de parler avec les auteurs. Et puis aussi la buvette aussi où il y a les auteurs, des gens qui viennent vous parler. Et c'est vrai que quand on écrit, c'est quand même super agréable de parler aussi avec des lecteurs ou des futurs lecteurs. C'est quand même, on écrit aussi pour eux, quoi. Donc, même si on écrit avant tout parce qu'on en a besoin, on écrit aussi quand même pour échanger. Donc, c'est toujours très agréable. Et moi, pareil, par rapport à cette projection de Migraine, on a fait des projections à Paris déjà, mais là, je suis quand même très contente de le faire dans le cadre d'un festival.
Migraine sera projetée quel jour, à quelle heure ?
Alors, c'est le 29, c'est le samedi 29 juin à 19h. Et vers, il me semble, 17h30, on va faire un débat avec Noël, qui est une auteure-réalisateur, sur les rapports entre images et écriture.
Mmh. C'est une discussion effectivement qui aura lieu. Je pour reprendre un peu, petit peu, puisqu'on fait la bascule peut-être sur la littérature. Bonjour Hélène, je ne vous connais pas, mais j'entends parler de vous depuis quelques mois déjà. Hein, et pour un peu synthétiser peut-être ce qui se dit là, c'est vrai que les équipes, toutes les équipes du FIRN, la première intention, c'est toujours d'être, de soigner, de rester dans un format qui est généreux envers les auteurs, envers le public, et de rester dans des dimensions qui sont effectivement loin de l'industrie. On essaie de faire en sorte qu'il y ait une proximité, des échanges entre les gens qui écrivent ou les gens qui filment, ou les gens qui dessinent, puisqu'il y a aussi le plateau aux bandes dessinées, et le public. Et à ce niveau-là, ça fonctionne plutôt bien. Les rendez-vous, là, depuis 16 ans, fonctionnent plutôt bien. Voilà.
D'ailleurs, on va détailler avec Patrick Bodos le côté programmation cinéma. Hélène, on vous souhaite de rencontrer plein de lecteurs et de passer une excellente édition 2013 du Festival international du roman noir.
Merci beaucoup. Merci.
À très vite, donc. Au revoir.
Au revoir.
Donc le cinéma, oui, dans le FIRN, est-ce que ça y était dès les premières éditions?
Alors non, le FIRN est à l'origine et encore aujourd'hui un festival consacré à la littérature. Mm-hmm. Le cinéma, c'est une excroissance, c'est un mot un petit peu barbare pour dire qu'effectivement, je m'emploie quand même à essayer de grignoter un petit peu chaque fois, chaque année comme ça, auprès des équipes de Soleil, auprès de la ville de Frontignan, du temps, mais pour être toujours en pertinence avec les plateaux proposés. Donc effectivement, le thème retenu cette année, c'est la littérature. Les affaires de famille, voilà. Dans le plateau littéraire. On a essayé, nous, dans le plateau cinéma, de tenir compte de cet argument qui est fort. Et bien entendu, dès qu'on parle de famille au cinéma, on pourrait très bien penser à la saga de Francis Ford Coppola, par exemple. Oui. Il y a plein de choses après qui se sont mis en place, qui ont un petit peu fait de la cogitation. Cette année, il y a, hormis la belle proposition du samedi où on a effectivement des gens de cinéma et de littérature qui vont croiser leurs regards, qui vont participer à une discussion à la fois sur oui, l'état des lieux et quelque chose aussi de majeur qui revient dans toutes les tables rondes, qu'elles soient littéraires ou quand on discute avec les auteurs de bande dessinée ou quand on reçoit des gens comme Lucas Bellevaux l'an dernier, Nader Omayoun ou les années précédentes, Guillaume Niclou, Léa Fener pour ne citer qu'eux. L'objectif étant de faire en sorte que il y a une combustion qui se passe entre ces gens sur la table ronde ou la discussion et qu'on voit un peu des réactions et que ça permet de cerner les contours, les enjeux, les mutations, mm-hmm. qu'elles soient sous la forme du livre ou la forme du cinéma qui est en perpétuel renouvellement. Mm-hmm. Donc cette année, on s'est attaché sur le volet cinéma avant tout à, sans parler d'apothéose, mais il y a quand même une forme d'apothéose sur les trois avant-premières. On a trois films qui ont vraiment des géographies et des saveurs un petit peu atypique. Hein. Le film noir, il est quand même consacré et né aux États-Unis. Il a traversé après l'océan, il est arrivé en France. Il a irrigué toute l'Europe et le cinéma mondial. Mais on est loin du cinéma original, de la source américaine. Mm-hmm. On a deux avant-premières danoises avec deux films très forts, qui mettent au centre les enjeux de la famille, sa représentation et ses problématiques. Hein. Northwest, un film radical qui passera le samedi soir après... je reviendrai après sur la promotion courte, et Hijacking, qui lui aussi, déjà d'entrée géographiquement, l'action se situe sur un bateau au large des côtes somaliennes, mais on arrive quand même à retrouver à la fois ce qui fait le terreau depuis toujours du film noir et des préoccupations nouvelles. Mmh. On peut aussi penser qu'aujourd'hui, les charges du film noir... elles ont toujours été le reflet un peu de l'état du monde. Mais aujourd'hui, elles essaient d'engager aussi des choses un peu, des formes nouvelles. J'entends forme au sens du geste cinématographique. Mmh. Les trois avant-premières sont réalisées par des jeunes metteurs en scène. L'an dernier, on avait Lucas Bellevaux, qui est quelqu'un qui a une trempe et qui a 10 films au compteur. On avait l'année précédente Guillaume Niclou, qui a aussi beaucoup de films au compteur. Là, on a affaire à des films faits par des jeunes talents. Hein. La troisième avant-première, je ne l'ai pas citée, c'est Salvo, un film italien, qui était à Cannes cette année, qui a eu le prix d'une semaine, pardon, je trouve pas mieux, la semaine de la critique, qui est un prix pas facile à obtenir. Hein, c'est pas un prix, c'est pas un prix d'honneur, c'est pas un prix d'estime, c'est un prix de professionnel au sens godardien du terme, on dira. Voilà, moi je suis très content qu'il y ait ces trois apothéoses d'avant-première, parce que c'est des films qui sont pas sortis. Bien entendu, il y a aussi du patrimoine, on peut pas programmer. Sur patrimoine. Alors donc, on a, sur la carte blanche qu'on a donnée à Noël Messi d'échange, j'en dirai peut-être quelques mots. Après, si tu veux, Gilles, mais...
On n'aura pas le temps.
Donc, il y a aussi un documentaire. Il y a du patrimoine avec La Nuit du Chasseur, qu'on fait sur un format en muscade, que je pense que les auditeurs de Divergence connaissent. On a eu travaillé ensemble sur ce dispositif-là. Mmh. Il y a aussi Little Odessa de James Gray, son premier film, hein, qui est un film noir au sens strict du terme, très américain, mais qui se passe dans la communauté slave et russe de New York. C'est un poème visuel, comme chaque fois, et un poème aussi de l'âme. C'est un film que je suis très, très fier de pouvoir, enfin, à travers le FIRN, on est très, très, très heureux de pouvoir le reprogrammer, parce qu'il est d'une beauté sidérante. C'est peut-être d'ailleurs son plus beau film, quelque part.
Et puis évidemment, il y a aussi de la bande dessinée, on n'aura pas le temps d'en parler, on retrouve toutes les infos sur polar-frontignan.org pour cette édition du FIRN. On est obligé de s'arrêter là, car l'entente est partie.
Peut-être une partie, dernière
oui,
info.
Une dernière info.
Dans le cadre du FIRN demain, Honestor Burma à Montpellier, au petit cinéma, enfin petit cinéma mais grand par la programmation, il y a Blue Velvet de David Lynch. Voilà, c'est un beau cadeau aussi qu'on peut faire.
Le rendez-vous est pris. On va se quitter avec Iggy Pop et le titre Scene of the Crime. Ça s'imposait un petit peu.
Je crois que c'est pas mal, ouais.
Merci beaucoup. Et puis, on vous invite à vous rendre à Frontignan, car c'est un magnifique moment pour débuter l'été. On remercie François et Bruno qui ont réalisé cette émission. L'Auberge Espagnole vous salue et vous souhaite une bonne semaine.